Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce jeudi 7 avril 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Le Mossad assassinera Poutine. Vous aurez ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Téhéran appelle à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique à la crise ukrainienne. Les forces d'occupation arrêtent 18 Palestiniens en Cisjordanie et la Russie accuse les États-Unis d'accroître leur capacité biologique militaire dans le monde. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique afin de mettre fin à la crise en Ukraine, réitérant la position de Téhéran de rejeter les guerres et les sanctions. Hossein Amir Abdollahian et son homologue hongrois Peter Szijjártó ont discuté mercredi 6 avril, lors d'une conversation téléphonique, des relations bilatérales et des derniers développements concernant les pourparlers de Vienne sur la relance de l'accord iranien de 2015. Le ministre iranien a fait référence à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, affirmant que la République islamique d'Iran rejetait à la fois les guerres et les sanctions. Il a également appelé à des efforts concertés pour parvenir à une solution politique afin de mettre fin au conflit en cours. Amir Abdollahian a aussi présenté ses félicitations pour la victoire du parti au pouvoir aux élections parlementaires hongroises. Il a déclaré que Téhéran était prêt à étendre ses relations avec Budapest et à mettre en œuvre les accords signés lors de la réunion de la Commission économique conjointe des deux pays en décembre dernier. Szijjártó, pour sa part, a invité Amir Abdollahian à visiter la Hongrie. Il a souligné l'engagement de son pays à élargir la coopération avec l'Iran et a souligné la nécessité de mettre en œuvre les accords conclus entre les deux pays. Le ministre iranien a réaffirmé la détermination de l'Iran à parvenir à un accord bon et durable par le biais des pourparlers de Vienne si la partie américaine est réaliste. Soulignant les initiatives de l'Iran, il a déclaré que des progrès importants avaient été réalisés lors des pourparlers, mais que certains problèmes restaient en suspens entre Téhéran et Washington. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a exprimé l'espoir qu'un accord serait conclu grâce à une approche constructive de toutes les parties. L'approche constructive de l'Iran dans le but de parvenir à un accord final est très précieuse, a-t-il indiqué. Le ministre iranien a également remercié la Hongrie pour son rôle humanitaire en facilitant le transfert des Iraniens vivant en Ukraine vers l'Iran. Le ministre iranien du pétrole, Ali Oji, a fait part de la signature de plus de 55 contrats et mémorandums d'une valeur de 16,5 milliards de dollars sans en divulguer les détails. Ce mercredi 6 avril, M. Oji a déclaré que ces contrats avaient été signés avec des entreprises iraniennes et étrangères pour le développement de champs pétroliers et gaziers communs, ainsi que pour mettre fin à la procédure de brûlage de gaz à la torche sur les sites de production pétrolière. Le ministère iranien du pétrole n'a pas divulgué le nom des sociétés et les détails de ces contrats, et pour cause, les conditions de sanctions, selon ses propres termes. Selon le ministère iranien du pétrole, les nouveaux contrats permettront aux grands holdings de recevoir leurs bénéfices à partir de la production du pétrole et du condensat de gaz en investissant dans les champs d'hydrocarbures. Une autre partie du financement de ces projets est assurée par des consortiums bancaires et sous forme de prêts. Et d'ajouter, les accords que nous avons signés sous le mandat du président Ebrahim Raisi sont bien plus importants que les contrats signés pendant le gouvernement précédent avec la compagnie Total pour le développement de la phase 11 du Par Sud. Il a ajouté que le français Total n'avait tenu aucune de ses promesses. Les cours du brut sur les marchés mondiaux connaîtront une baisse considérable si l'Arabie saoudite respecte ses engagements pris dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, a déclaré le porte-parole de la compagnie pétrolière du Yémen. Issam Al-Motawakkil a déclaré mardi, lors d'un entretien avec l'agence de presse Al-Masira, que cas où l'Arabie saoudite permettrait aux navires pétroliers d'atteindre le port de Hudaïda sans aucun problème, les prix des produits pétrochimiques diminueraient. Le porte-parole de la compagnie pétrolière du Yémen a ajouté « Une fois les navires pétroliers à Sanaa, les prix des dérivés du pétrole dans les zones libérées seront bien inférieurs à ceux dans les zones occupées, ce qui entraînera une baisse du prix du carburant au Yémen. Actuellement, l'Arabie saoudite vend le pétrole des raffineries nationales à son peuple pour 46,60 riyals saoudiens, alors que Riyad ne doit pas payer des dépenses telles que le transport à l'étranger, les assurances, les amendes de retard et autres, a-t-il souligné. Il y a quelques mois, Issam Al-Motawakkil a annoncé que la marine saoudienne avait empêché le pétrolier Kaysar d'entrer dans le port de Hudaïda. Désormais, en vertu d'un accord de cessez-le-feu initié par les Nations Unies et signé par les parties impliquées dans la guerre au Yémen, l'Arabie saoudite est obligée de libérer les navires qu'elle avait arraisonnés et de permettre la circulation sûre et libre des navires citernes vers Sanaa. Avec le développement accru des opérations individuelles menées en Palestine, le régime sioniste se trouve devant une crise sans précédent qui risque de devenir une bombe à retardement pour Israël. Depuis 2 ans, les opérations individuelles de combattants palestiniens semblent être marquées par 3 changements importants. Premièrement, les armes à feu ont pris la place des armes blanches au fur et à mesure. Deuxièmement, ces opérations sont devenues de plus en plus courantes dans les territoires palestiniens occupés en 1948. Or, autrefois, ces opérations individuelles étaient observées essentiellement en Cisjordanie, ce qui inquiète particulièrement les responsables de sécurité du régime sioniste et le nombre croissant de ces opérations dans la ville de Tel Aviv. Et troisièmement, ces opérations individuelles sont de plus en plus menées par des jeunes palestiniens. Les évolutions dans les méthodes des opérations individuelles des combattants palestiniens depuis 2015 les ont rendues particulièrement efficaces. C'est la raison pour laquelle les autorités israéliennes ont contacté récemment le roi de Jordanie et le président de l'autorité autonome palestinienne pour demander leur aide à faire arrêter le développement des opérations individuelles dans les territoires occupés. Les analystes estiment que des approches violentes et brutales du régime sioniste pourraient attiser le feu de la colère et de l'indignation des Palestiniens sur l'ensemble de la Palestine historique et préparer le terrain à une nouvelle intifada. Les forces d'occupation israéliennes ont arrêté 18 Palestiniens dans différentes zones en Cisjordanie. L'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que les forces d'occupation avaient pris d'assaut Oukbet al-Khaldiya dans la vieille ville d'Al-Rots occupée, la banlieue de Cheveikh, la localité de Rafin au nord de Tulkarem, le camp de Jenin, les 2 localités de Beit Omar et Beit Ava, le village d'Al-Tawana al-Khalil et la zone d'Al-Bayrin au sud de Kalkiliya et fouiller les maisons des Palestiniens avant d'arrêter 8 d'entre eux. Les forces d'occupation ont également arrêté 2 détenus libérés de la localité de Rafin au nord de Tulkarem. Elles ont également attaqué la nuit dernière les Palestiniens dans la zone de Bab al-Hamoud al-Rots occupée et arrêté 8 d'entre eux. Les États-Unis sont en train d'accroître constamment leur capacité biologique militaire dans diverses parties du monde, profitant de lacunes dans le droit international, accusé mercredi 6 avril l'armée russe. Washington crée des laboratoires biologiques dans plusieurs pays et les relie via un système unifié, a déclaré le général Igor Kirillov, chef des forces de défense contre les armes nucléaires, biologiques et chimiques de l'armée russe. Rien que dans les territoires limitrophes de la Russie et de la Chine, environ 60 sites ont été ainsi modernisés depuis 2005 grâce aux fonds de l'armée américaine. Note-t-il avant d'ajouter, les États-Unis ont dépensé plus de 5 milliards de dollars pour des programmes biologiques militaires depuis 2005. Selon le général Kirillov, ces sites travaillent dans trois domaines. Surveillance de la situation biologique dans les zones proposées pour un déploiement de soldats de l'OTAN, collecte et livraison aux États-Unis de souches de micro-organismes dangereux et étude d'agents potentiels d'armes biologiques. D'après lui, les agents spécifiques à une région donnée, ayant des foyers naturels et pouvant être transmis à l'homme, sont également étudiés. L'Algérie et la Russie s'apprêtent à lancer des manœuvres militaires conjointes à l'automne 2022 dans le sud algérien. C'est ce qu'ont rapporté le mardi 5 avril les médias russes, qui citent le bureau de presse de la région militaire sud de la Russie. Alors que la guerre bat son plein en Ukraine, la coopération entre l'Algérie et la Russie n'a pas connu de répit. La visite effectuée le lundi 4 avril par le ministre algérien des Affaires étrangères à Moscou en est la parfaite illustration. Ramtan Lamamra s'est notamment entretenu avec le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, autour des axes et des perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays, indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Les entretiens entre Lamamra et les hauts responsables russes ont porté sur les principaux axes de la coopération entre l'Algérie et la Russie, ainsi que les voies et moyens de la renforcer dans divers domaines, ainsi que des questions relatives à la préparation des prochaines échéances bilatérales, et ce pour imprimer une nouvelle dynamique aux mécanismes régissant les relations stratégiques unissant les deux pays, a précisé le communiqué. Au lendemain de cette visite de Lamamra à Moscou, RT, qui cite un communiqué de presse de la région militaire sud de l'armée russe, a rapporté le mardi 5 avril que les armées algériennes et russes ont convenu de mener des manœuvres militaires conjointes à l'automne prochain en Algérie. Des manœuvres qui ne sont pas les premières du genre entre les armées des deux pays. Environ 80 militaires russes de la région militaire du Sud participeront à ces exercices, selon la même source. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le Mossad assassinera Poutine. Depuis que les Russes sont parvenus à s'emparer de Mariupol, quitte à couper l'accès de l'OTAN à la mer d'Azov et partant à réduire la possibilité pour que les États-Unis et leurs spires se servent des missiles anti-navires pour bloquer Azov sur la flotte russe, perte stratégique qui a poussé le camp d'en face à faire un remake du scénario chimique de Douma en Syrie, en exécutant des Ukrainiens pro-Russie à Boutcha et en cherchant à en accuser la Russie, les analystes perçoivent un radical changement de cap et de position côté lien Israël-Russie. Rappelons que jusqu'ici, et par crainte d'avoir à en payer le prix fort en Syrie, Israël évitait de prendre parti pour le régime de Kiev, qu'on sait par ailleurs être un pion d'Israël. L'entité sioniste s'est mise même à jouer au médiateur, Bennett faisant la navette entre Moscou et Kiev. Mais mardi, et pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, Israël, dont les crimes commis en ce moment même en Palestine historique, en Cisjordanie et au Negev, sont visualisés sous les yeux terrifiés du monde, crimes à la fois contre l'humanité et de guerre, l'entité sioniste a accusé la Russie de crimes de guerre à Boutcha. Ainsi, le gourou Yair Lapid a condamné les actions de la Russie en Ukraine, emboîtant très exactement le pas à Biden qui, lui, avait traité la veille Poutine de barbare. Mais la rupture de ligne habituelle à Tel Aviv vis-à-vis de Moscou n'en est pas restée au stade verbal. Dans la soirée de mardi, On a appris qu'Israéliens et Américains iraient livrer le système de missiles antimissiles Arrow 3 à l'Allemagne, membre de l'OTAN. Les agences affirment. L'Allemagne a obtenu l'approbation pour l'achat du système de défense antimissile israélien Arrow 3. Ce contrat porte un nouveau coup dur à l'industrie européenne de l'armement. Le budget de 100 milliards d'euros en armement, décidé par l'Allemagne, est dépensé à une vitesse vertigineuse. Après la décision d'acheter des F-35, Berlin va s'équiper de l'Arrow 3, le système antimissile israélien également surnommé Dôme de fer. En fait, ce projet avait été dévoilé par la presse allemande fin mars. Israël faisant tout autour une méga surenchère et un de ses hauts gradés, Ingo Gerhardt, ayant même déclaré par presse apposée que l'Arrow 3 est le système le plus pertinent pour les menaces qui pèsent sur la nation européenne. Cette manière de médiatiser un contrat de vente à caractère russe, car à part la Russie, on ne voit contre qui Berlin utilisait ses missiles un jour, n'a fait qu'accentuer les clivages. Le Jérusalem Post allant jusqu'à noter même que ce serait la première fois que l'Arrow 3 serait vendu à un pays étranger. Curieux, car l'apparition du système Arrow en Allemagne, qui vient d'ailleurs de recevoir les F-35 US, coïncide avec cette campagne menée elle aussi tambour battant autour de la formation d'une OTAN tyran, là encore à l'aide d'Arrow 3, a installé cette fois aux Émirats et Bahreïn contre les missiles et les drones iraniens. Mais si le degré de l'antinomie entre l'antisioniste d'une part et l'axe de la résistance de l'autre permet de comprendre l'implantation d'Arrow à Abu Dhabi, il n'en est pas de même pour l'acquisition de ce système par l'Allemagne, car entre la Russie et Israël, il n'y a pas de guerre ouverte. À moins que les choses se soient mises à changer et à devenir réellement graves, au point que le système antimissile israélien devrait intégrer le ciel de l'OTAN via l'Allemagne pour servir de plateforme d'attaque contre la flotte aérienne russe. La Russie peut-elle maintenir le cap relationnel avec l'entité sioniste? Au fait, au point où en sont les choses, c'est la guerre ouverte et on se demande toujours à quand la riposte russe. Une riposte qui a un décor idéal, la Syrie et des partenaires volontaires, les résistants. Un Arrow 3 en Allemagne pourrait ainsi riposter par une couverture aérienne russe à une offensive zéro résistance contre le Golan occupé, ainsi que la craignait début avril le régime sioniste, au moment où il attendait la riposte iranienne à sa frappe aérienne du 7 mars, qui a coûté la vie à deux officiers supérieurs iraniens dans le nord de Damas. La Russie finira-t-elle par passer de la parole à l'acte? Une chose est sûre, il y a l'urgence. Les oligarques israélo-russes ayant commencé à quitter le navire russe. Israël ira encore de l'avant. Et à quoi rime exactement aller de l'avant? Selon des fuites, le groupe de hackers Open Arms annonçait qu'il publierait bientôt des informations sur l'implication du Mossad dans une tentative d'assassinat du président Khazar, Rassim Jomart Tokayev, ainsi que sur le rôle destructeur d'Israël pendant la tentative de révolution colorée de la fin 2021. Cette information aurait d'ailleurs été reprise par les médias hébreux, qui ont également confirmé que le groupe avait l'intention de publier des documents concernant un projet d'assassinat du président du Kazakhstan et le rôle destructeur d'Israël dans le pays. Les médias hébreux affirment que le groupe Open Arms est un groupe de hackers iraniens, information non confirmée de sources sûres. C'est ce même groupe qui a publié il y a quelque temps des données piratées à partir du portable de l'actuel chef du Mossad, inclus dans une vidéo, et cette révélation a fait connaître son nom. Selon le groupe, les fuites concernant le chef du Mossad et le résultat d'opérations secrètes de collecte de renseignements contre des cibles israéliennes, y compris des hauts responsables des appareils de sécurité et des responsables militaires sensibles sur une longue période d'années. Reste que Tokayev pourrait ne pas être l'unique cible présidentielle du Mossad, qui a l'air d'être de plus en plus intéressé par les appels aux meurtres de Poutine et ont été lancés par Joe Biden.
Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce qui se passe à Al-Qod. C'est occupé, si vous avez suivi l'actualité. Vous en êtes rendu compte, il y a eu ces derniers jours de rassemblement à Al-Qod entre les Palestiniens et les forces d'occupation israéliennes. Il y a eu également des affrontements militaires entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens à Jenin. Trois combattants palestiniens ont été tués. Les groupes de résistance palestiniens y ont réagi, la résistance palestinienne, qui a mis en garde contre, si vous voulez, toute bêtise de la part du régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. Et ces événements ont à Al-Qod occupé également à Jenin en Cisjordanie interviennent à un moment où il y a eu tout récemment cette réunion entre les Américains, les Israéliens, les Marocains, les Émiratis et également les Bahreïnis dans, si vous voulez, la région du Negev en Israël. Est-ce qu'on peut établir un rapport entre, si vous voulez, ces deux événements ou pas? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialisé des questions internationales, M. Luc Michel. Luc Michel, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à nos téléspectateurs et à toute l'équipe. Je salue bien d'abord l'entier le professeur Dortigui et mon collègue Thomas.
Vous l'avez dit, l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui qui est avec moi pour cette émission au téléphone depuis Toulouse, c'est M. Pierre Dortigui, philosophe français spécialiste des questions internationales. M. Dortigui, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Narostine, bonjour à tous vos auditeurs et à notre ami M. Michel.
Monsieur Dortiguier, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Quelle analyse portez-vous sur ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et Israéliens, s'il vous plaît?
Eh bien, cette réaction, disons, palestinienne est peut-être liée, en effet, à la réunion à laquelle vous avez fait allusion au Negev, là, disons, entre les Américains, les gens du Golfe et, disons, les Israéliens. Je crois qu'il s'agit là d'une protestation palestinienne, disons, assurant qu'elle ne se plierait pas à une décision, entre guillemets, internationale, et en fait faussement internationale, disons, pour pouvoir, comme le dit ici chez nous, un candidat aux élections, M. Zemmour, pour, disons, effacer la question palestinienne, c'est-à-dire contester, disons, le bien fondé, disons, la justice de l'entité sioniste. Celle-ci repose sur un coup de force, vous voyez, et elle n'a jamais reconnu ce à quoi elle s'est engagée aux États-Unis, devant les Nations Unies en 1948 à résoudre la question palestinienne, c'est-à-dire à donner justice aux Palestiniens. C'est une des raisons, vous savez, de l'acceptation de l'entité sioniste parmi les Nations Unies. Eh bien, Israël l'a refusé, et donc il est normal que périodiquement, sont chroniquement, il y ait ces réactions palestiniennes, qui sont des réactions de protestation, des réactions de survie d'un peuple.
Mmh. Luc Michel, votre lecture des faits, s'il vous plaît.
On constate depuis quelques années une chute d'Israël. Jusque-là, Israël avait une supériorité stratégique dans tous les domaines sur l'axe de la résistance, et en particulier sur la Syrie, le Liban et l'Iran. Mais aujourd'hui, c'est terminé. On voit que les systèmes antimissiles israéliens ne sont plus performants. On voit que le secteur balistique développé par l'Iran et dont il a doté l'entièreté de l'axe de la résistance est capable de vaincre Israël. Et dans le cadre de la guerre de la Syrie, la Russie a établi la parité stratégique qui existait dans la dernière décennie de l'Union soviétique avec la Syrie, d'Hafez et l'Assad et Israël. C'est donc la fin de la supériorité stratégique israélienne et c'est le succès de ce qu'on a appelé la guerre hybride de l'Iran et de la résistance, cette nouvelle forme de guerre inventée à partir de la guerre du Liban en 2006 par les Hezbollah libanais. C'est la panique complète des jeunes israéliens et des nouvelles alliances avec certaines métro-monarchies arabes réactionnaires n'assurent plus à Israël cette supériorité stratégique. Il y a d'autant plus ce phénomène qui est en train de se faire, c'est-à-dire le basculement dans le domaine géoéconomique des pétromonarchies, des Émiratis et des Qataris du côté du bloc de l'Est dans le domaine du gaz, du pétrole.
C'est très important.
Et Luc Michel, est-ce que vous aussi vous établissez, tout comme M. Dortiguet, un rapport entre ce qui se passe entre Palestiniens et Israéliens dans l'état actuel des choses et ces réunions, ces récentes réunions qui ont eu lieu en Égypte et dans le Negev, s'il vous plaît?
Oui, c'est-à-dire, j'expliquais donc qu'il y a un basculement géopolitique qui est inattendu pour les Occidentaux et qui était effectué dans le cadre de la guerre du gaz, qui est le cœur même de la guerre en Ukraine. Au cœur même de la guerre en Ukraine, les buts de guerre américains, c'est la guerre du gaz, c'est s'emparer du marché du gaz mondial. Mais pour ce faire, évidemment, il s'agit de mener à la ruine pas seulement les Russes, les Iraniens et les Vénézuéliens, mais également les Qataris et les Émiratis. Ils ont donc basculé dans le cadre de cette guerre du gaz du côté du bloc de l'Est. C'est inattendu pour les Occidentaux. Et le but de cette guerre dans le Genev, ce n'est pas tellement de rassurer les Israéliens, c'est d'essayer de se rassurer par rapport à la position de ces pétromonarchies du gaz, les Émiratis et les Qataris. Malheureusement, il est trop tard pour les rattraper et le basculement de ces gens du côté du bloc de l'Est, qui s'est effectué lors du sommet de Doha, il est définitif, il est assuré pour le bloc de l'Est, malgré ce que voulaient faire les Américains et les Israéliens.
Monsieur Dortiguet, en fait, s'agissant de ce qui s'est passé ces derniers temps entre Palestiniens et Israéliens, en fait, le fait inédit cette fois-ci, c'est qu'on a assisté, si vous voulez, à la lutte armée des Palestiniens contre des Israéliens dans les territoires occupés de 1948. Jusqu'à présent, s'agissant de la lutte armée, c'était en fait les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de la bande de Gaza qui s'y étaient livrés. Mais pour la première fois, il y a eu la lutte armée des Palestiniens, si vous voulez, qui habitent dans les territoires occupés de 1948 et qui ont, si vous voulez, la nationalité israélienne. Et on a assisté, si vous voulez, à la lutte armée de ces Palestiniens contre, si vous voulez, les Israéliens. Comment vous l'expliquez, M. Dortiguet?
Eh bien, je l'explique par l'avertissement même que donnaient les Nations Unies à Israël, dont nous avons parlé, à savoir dans sa réception. Il était demandé que les territoires donc de 48-49, 50, de 48, de 48-49, c'est ça, soit, disons, enfin, soit, je ne dis pas remboursé, mais connaissent une sorte de justice, voyez-vous, à la fois foncière, qu'on reconnaisse les propriétés. Alors que les Israéliens brûlaient les titres de propriété à l'époque, c'est-à-dire reconnaissent l'existence, c'est pas l'immigration, mais l'existence des propriétés palestiniennes. Et ceci est toujours resté ouvert, ça n'a jamais été, disons, pris au sérieux par les Israéliens, et aujourd'hui, ils sont en train de le payer. Ils croyaient en effet on croyait jusqu'à présent que c'était uniquement les territoires annexés après la guerre des six jours, voyez-vous. La guerre donc de 67, qui était une cause de trouble dans les rapports entre Palestiniens et Israéliens. Non, on avait oublié et l'histoire le reprend aujourd'hui, qu'il s'agit là que, en fait, le problème date avant la guerre des six jours. Il date justement du coup de force que les Israéliens ont, avec Ben Gurion, etc., ont réalisé en 1948. Et donc, la question palestinienne est une question qui est rivée, essentielle à la légitimité de l'entité sioniste, voyez-vous. Elle ne peut pas être légitime si elle ne rend pas, disons, justice au, au droit foncier palestinien. Je rappelle aux auditeurs qu'il n'y a pas eu de loi en Israël d'expulsion des Palestiniens. Ils ont utilisé l'arsenal juridique des, pendant la guerre, dirigé contre les Italiens et les Allemands. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de loi nouvelle, ils ont simplement utilisé des lois anglaises.
Luc Michel, je vous pose en fait cette même question d'un autre angle. Bon, il y a plusieurs millions de Palestiniens qui vivent en dehors de la Palestine, dans d'autres pays, au Liban, en Syrie et ailleurs. Il y a également auprès des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, s'agissant de la Cisjordanie ces dernières, si vous voulez, décennies. La politique israélienne consistait, si vous voulez, à y construire des colonies à population israélienne, avec objectif, si vous voulez, d'encercler en quelque sorte ces Palestiniens qui vivent même en Cisjordanie. Mais désormais, en fait, je viens de le dire, le régime des Israéliens est confronté à cette, si vous voulez, affaire, à cette question, comme quoi, en fait, il doit faire face désormais aux Palestiniens qui, aux Arabes palestiniens qui ont la nationalité israélienne, qui vivent en fait dans les territoires occupés de 1948. Ça aussi, c'est d'une importance vitale, Luc Michel, n'est-ce pas?
C'est l'échec de la stratégie israélienne. Les Israéliens ont mené une politique de grignotage contre les Palestiniens. Et ils ont refusé à tout un peuple la justice et la dignité. Et aujourd'hui, comme un boomerang, la situation leur revient. Ils n'ont pas du tout su liquider les Palestiniens comme ils pensaient l'avoir fait. Et cette technique qui était d'opposer la Cisjordanie et Gaza, qui était d'opposer le Hamas et l'autorité palestinienne, c'est un échec total et absolu. Vous savez, dans les années 1980, il y avait un grand débat en Israël qui était mené entre des historiens israéliens et qui menaient une réflexion sur l'histoire des royaumes francs de Jérusalem. Les royaumes francs de Jérusalem, après plusieurs siècles d'existence, s'étaient vus à la fin de la dernière croisade rejetée à la mer. Ça avait été la fin des royaumes de Tripoli et de Saint-Jean d'Acre. Après la liquidation des royaumes de Jérusalem, les historiens israéliens pensaient que les Israéliens allaient connaître la même situation. Et ces historiens avaient eu raison anticipativement. Je pense qu'on se dirige vers cela. C'est la fin de la stratégie israélienne. Et d'autant plus ça se fait que la stratégie américaine également est un échec en Cisjordanie et à Gaza.
Qu'entendez-vous par la fin de la stratégie israélienne de Luc Michel? Est-ce que vous pouvez vous développer un peu sur le sujet?
Ben écoutez, il y avait une stratégie israélienne qui était de grignoter les positions israéliennes et de tenter par eux, notamment la colonisation en Cisjordanie, de s'emparer des terres palestiniennes. Aujourd'hui, c'est un échec puisque les Israéliens sont face à un peuple mobilisé qui pratique non plus seulement l'intifada, mais la guerre classique et qui ont justement à grignoter eux-mêmes la parité stratégique avec les Israéliens. C'est un échec total de la stratégie israélienne, évidemment, et ça a conduit à rien du tout.
Pierre d'Orsiguier, en fait, je viens d'évoquer tout à l'heure en fait la réaction du côté de la résistance palestinienne. Vous-même, vous y avez fait tout à l'heure allusion. Bon, il y a eu la réaction du côté de la résistance palestinienne dans la bande de Gaza en Cisjordanie. Mais il y a cet élément, ce facteur qui surgit à l'intérieur des territoires occupés palestiniens. Il pourrait y avoir même un soulèvement, une intifada à l'intérieur des territoires occupés de 1948. Est-ce que cela, cet élément, ce nouveau facteur, disons-le, peut modifier nettement le rapport de force en faveur de la résistance, Pierre Dortiguier?
Oui, je pense à l'effet qu'il peut le modifier et de manière à réorienter la stratégie sioniste. J'entends par là que, puisqu'on parle beaucoup de l'Ukraine ces jours-ci, certains observateurs chez nous ont fait un lien entre le nombre de gens qui quittaient l'Ukraine par 4 millions, pour 4 millions et quelques, etc., et la possibilité que des sionistes, disons, venant d'Europe de l'Est ou d'Europe centrale ou de Russie, puissent même prendre pied en Ukraine, voyez-vous, ou en Europe. Je crois qu'il y a un plan évidemment qui a toujours été, à mon avis, derrière la tête des Israéliens, à savoir que leur présence en Israël est une présence, disons, instable. Ce qui intéresse les Israéliens, ce n'est pas la stabilité de leur présence. Autrement, ils auraient résolu par la justice, par une certaine justice, disons, leur emprise. Ce qu'ils veulent, c'est une domination ou un contrôle de l'ensemble de la région, voyez-vous. Et ils sont prêts à sacrifier, même en partie, leurs propres colons, voyez-vous. Il faut bien prendre conscience de ce caractère double de l'entité sioniste, c'est-à-dire à la fois terre de colonisation, mais surtout terre d'influence, terre, disons, sorte d'état-major de trouble, voyez-vous, qui vise non pas la paix intérieure, mais le contrôle de la région, voyez-vous, avec l'appui, bien sûr, des États-Unis en premier, malheureusement. Et je crois que c'est cet aspect, disons, instable de l'entité sioniste qui en fait le danger, non pas le danger seulement local, mais un danger permanent pour l'équilibre du monde. Mmh.
Luc Michel, qu'est-ce que vous en pensez? M. Dortiguier estime que voilà, l'objectif est du côté en fait, du régime de Tel Aviv est de dominer l'ensemble de la région et pour en fait, atteindre un tel objectif, pour réaliser un tel objectif, une telle visée d'ailleurs néfaste. Ceux qui sont derrière cette politique, si vous voulez, sont prêts à se faire tuer même leurs propres colons, Luc Michel.
Le professeur Dortiguier a raison. À la fin de la guerre des six jours, parce que avant cela, les Israéliens et les Américains n'étaient pas alliés, Israël est devenu un porte-avions américain au Proche-Orient. C'est devenu le symbole non pas seulement de la colonisation en Palestine, mais de toute la colonisation par le bloc américain occidental du Proche-Orient. Et la confrontation qui a été gagnée dans la dernière phase de la guerre froide sur la Syrie en particulier, à la fin de la guerre froide, la domination stratégique des Américains et des Israéliens, aujourd'hui, c'est en train de se terminer. Ça explique d'ailleurs le grand malaise qui existe actuellement entre Israël et la Russie. La Russie avait une politique de neutralité bienveillante vis-à-vis d'Israël, notamment en Syrie. Aujourd'hui, c'est terminé. Dans le cadre de la guerre de Syrie, bien entendu, un fossé s'est élargi entre l'axe de la résistance alliée aux Russes et aux Israéliens et aux Américains. La fin, justement, de la domination stratégique des Israéliens par rapport à l'axe de la résistance manifeste la fin de cette période géopolitique pour une autre où les Israéliens doivent faire face à une parité stratégique renouvelée avec l'axe de la résistance et à la fin de la neutralité bienveillante de la Russie. Or, aujourd'hui, de l'aveu même des Israéliens et de l'aveu même des observateurs russes, celui qu'on appelle le tsar du Proche-Orient, c'est Poutine. C'est Poutine qui est l'arbitre de la géopolitique aujourd'hui dans le Proche-Orient.
Monsieur Dortiguier, une dernière question. Nous avons 2-3 minutes devant nous. Monsieur Dortiguier, êtes-vous d'accord avec ceux des analystes qui estiment que voilà, ce sont les accords de normalisation, ce sont ces agissements du côté de certains régimes arabes et qui ont poussé, si vous voulez, ces Palestiniens, surtout qui se trouvent dans les territoires occupés de 1948, à se tourner vers la lutte armée, M. Dortiguier.
Oui, en effet. Je réponds brièvement. Ces fameux accords d'Abraham, par exemple, qui ont été, à mon avis, un précipité, vous voyez, pour cette lutte palestinienne. Les Palestiniens ont vu véritablement une coalition contre eux, et une coalition qui était une sorte de coup de poignard dans le dos, puisqu'il s'agissait de régimes arabes, dont l'un, bien sûr, est une, disons, abrite la Mecque, voyez-vous. Donc il s'agissait là d'une sorte de provocation ou d'insulte, disons, aux Palestiniens. Et je crois que cette réaction vient de là. En fait, disons, l'initiative israélienne a provoqué une antithèse, une réaction qui va à l'encontre même du but poursuivi.
Monsieur Dortiguier, merci infiniment d'avoir été avec moi au téléphone depuis Toulouse pour cette émission consacrée à ce qui se passe actuellement entre Palestiniens et Israéliens à Al-Rots également en Cisjordanie. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de participer à notre émission. Mes vifs remerciements vont être également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge, spécialiste des questions internationales, d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation et de participer à cette émission, le débat. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
L'idéologie est la pratique des courants takfiristes. Près de 12 ans après l'arrivée des premiers contingents de l'armée d'occupation turque dans le nord de la Syrie, où Erdogan a tout fait pour faire disparaître les traces de l'État syrien, sa monnaie et son identité, en y imposant tout ce qui fait de cette zone une province turque, il n'y voit que de la tragédie. À Istanbul, où Erdogan a accueilli les pourparlers de trêve entre la Russie et l'Ukraine, un peu comme en son temps ceux d'Astana, il a affirmé que la Turquie a des relations humaines, politiques, économique et historique, aussi bien avec la Russie qu'avec l'Ukraine, et que le gouvernement d'Ankara déploie des efforts intenses en vue de mettre fin à la guerre entre les deux pays, tout en déplorant les tragédies humaines qui ont été vécues auparavant en Syrie et qui se déroulent actuellement en Ukraine. Et il a ajouté, ces événements ont montré à nouveau l'importance de préserver l'intégrité territoriale de la patrie ainsi que la liberté et la dignité du peuple. Nous ne devons point oublier que celui qui n'a pas de patrie n'a pas non plus de liberté, et celui qui a perdu sa liberté perd par là même sa dignité, et celui qui perd sa dignité subit toute forme de catastrophe et de tragédie. Mais quelle mouche a piqué la Turquie qui, en mars 2020, à Saraghib, cette localité stratégique au carrefour de deux des autoroutes les mieux convoitées de la Syrie, M4 et M5, menait obstinément son opération Rameau d'Olivier pour annexer quelques kilomètres de terre syrienne de plus à la zone tampon qu'il voulait à l'époque se tailler dans le nord syrien, objectif partiellement accompli. Les analystes commenteraient ce virage non pas comme étant une repentance, mais une nouvelle mission répartie à la Turquie par les maîtres anglo-saxons. Laquelle ? Al-Monitor, journal proche des terroristes syriens, affirme dans l'un de ses récents numéros la modification qui est sur le point de se faire à Idlib et la miraculeuse conjonction qui en découlerait entre les mercenaires pro-Erdogan d'une part et les terroristes de l'ex-front al-Nusra que conduit le gourou terroriste al-Golani et la revue a écrit. Après avoir pris le contrôle total de la province d'Idlib dans le nord-ouest de la Syrie, Hayat Tahrir al-Sham chercherait maintenant à se rapprocher de plusieurs factions de l'armée syrienne libre soutenue par la Turquie dans la campagne d'Alep. Il semble que Hayat Tahrir al-Sham essaie sérieusement de se coordonner avec les factions sur les questions de sécurité et militaire, en prélude à des étapes plus importantes qui pourraient atteindre une intégration complète avec les factions de l'armée syrienne libre. Cela constituerait le fondement d'une administration civile et militaire unique qui régirait les zones échappant au contrôle du gouvernement syrien dans le nord-ouest de la Syrie. Al-Monitor a ajouté « Les cercles d'opposition et les djihadistes opposés à Hayat Tahrir al-Sham ont récemment fait circuler des fuites sur des réunions régulières entre les dirigeants de Hayat Tahrir al-Sham et de l'armée syrienne libre. » De quoi s'agit-il au juste? Rappelons d'abord que cette entreprise de rapprochement date du mois de janvier, mois où les forces spéciales américaines ont fait une descente à Idlib sous l'auspice turc, non pas pour tuer le chef de Daesh, comme ils l'ont laissé entendre, mais bel et bien pour rencontrer al-Gulani, lui transmettre la reconnaissance américaine, bref, voir avec lui comment pourrait s'organiser une extension synergique du trafic du pétrole de contrebande syrien de façon à ce que le pétrole volé syrien puisse regorger mieux pipeline Erbil-Turquie. À l'époque, personne ne savait que la Russie irait attaquer l'OTAN en Ukraine, mais les Américains agissaient suivant les données de renseignement. D'ores et déjà, il prévoyait les sanctions anti-russes et aplanissait le terrain à ce que, outre le gaz et le pétrole d'Erbil, que l'axe Barzani-Erdogan arrache des mains de l'État irakien pour l'envoyer en Israël, le pétrole syrien aussi réintègre ce circuit. S'il est vrai que le volet Idlib de la stratégie russe qui a consisté depuis toujours à ménager la Turquie pour éviter qu'elle ne tombe pas dans les bras de l'OTAN, objectif insaisissable à jouer des tours contre la Russie, n'empêche que ses agissements et surtout la façon dont il convient d'y mettre fin n'ont pas échappé à la résistance. Parallèlement à une montée en force des attaques de l'armée syrienne contre les mercenaires de l'axe États-Unis-Turquie à Idlib, qui semblent chercher à faire de cette province un État takfiriste autonome, un peu comme cet autre projet autonomisant que l'Amérique de Biden poursuit à déresoudre, la présence des combattants de la résistance commence à se faire de plus en plus visible dans le nord de la Syrie. L'attaque à l'artillerie de l'armée syrienne a coûté la vie à un terroriste de Hayat Tahrir al-Sham et fait 3 blessés, dont l'un se trouve dans un état critique. L'armée syrienne a bombardé les positions du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham près de la ville d'Al-Fatereh à Idlib, dans la région nord-ouest de la Syrie. Al-Fatereh est située sur le mont d'Al-Zaviyeh, dans la campagne méridionale d'Idlib. La ville est comme pour être un bastion de Hayat Tahrir al-Sham. Aux petites heures du matin, l'armée syrienne a bombardé cette ville et d'autres localités qui sont également situées sur le mont Al-Zaviyeh. Évidemment, il n'est pas question que l'État Idlib se forme au nord de la Syrie et l'armée syrienne sait comment l'empêcher, surtout que la Russie, occupée en Ukraine, s'en fiche désormais royalement de ce que Erdogan aimerait ou n'apprécierait pas sa politique syrienne.
Thank you.